Les anciens devoirs. La Grande Loge de France se réfère aux anciens devoirs. Quant au respect des traditions de la franc-maçonnerie et quant à la pratique du rituel et du symbolisme en tant que moyen d'accès au contenu initiatique de l'ordre. Quatre mots et quatre idées importantes. L'idée de tradition. La franc-maçonnerie est une institution qui a une tradition. La tradition, c'est ce qui se transmet d'une manière vivante, soit par l'écriture, soit par la parole. Elle véhicule non seulement des idées exprimées sous une forme logique et rationnelle, mais aussi des sentiments, des croyances, des aspirations, disons des manières d'agir, des manières d'être. Et la tradition devenue consciente d'elle-même, c'est l'histoire. C'est-à-dire la transmission aux jeunes générations de la représentation qu'un peuple se fait de son propre passé. Elle suppose donc une communauté organisée d'hommes et plus encore une sorte de communion des esprits et des âmes. Celle-ci assure la transmission, la continuité et en même temps l'homogénéité et l'unité de ce groupe. Et chaque génération a pour rôle et pour fonction, pour mission de transmettre à celle qui la suit, un dépôt sacré qui assure la pérennité de ce groupe. Et telle est la franc-maçonnerie en tant que société traditionnelle. Mais que trouvons-nous dans toute tradition maçonnique? Nous trouvons d'abord l'utilisation d'un rituel pour l'ouverture et la fermeture des travaux de loge. La pratique du symbolisme et l'idée d'une voie initiatique. En effet, une réunion maçonnique, une tenue, comme nous disons, outre qu'elle ne se passe pas dans un local quelconque, mais dans un temple, c'est-à-dire dans un lieu consacré, sacré, ne se passe pas n'importe comment. Elle est soumise à la stricte et rigoureuse observance d'un rituel, selon un certain rite, quel que soit ce rite. Nous savons que la fonction de tout rite est d'écarter, dit-on, les impuretés inhérentes à tout monde profane, et de nous séparer de ce monde pour mieux retrouver un monde de pureté ou d'idéal. Et sa fonction est de nous préparer au passage et de favoriser celui-ci vers notre monde, de permettre et de favoriser le passage du vieil homme à l'homme nouveau, c'est-à-dire de l'homme en proie au chaos des passions et de ce fait désordonné, à un homme mieux ordonné, plus en harmonie avec lui-même, en le mettant en communication avec ceux qui le transcendent, disons la lumière, ou même le grand architecte de l'univers. Vu de l'extérieur, ce rite peut paraître vain et inutile, mais tous ceux qui ont fait l'expérience de la vie maçonnique savent qu'il est nécessaire, indispensable, non seulement à la vie interne de la loge, mais aussi à l'épanouissement du franc-maçon. À la pratique scrupuleuse d'un rite s'ajoute aussi la pratique du symbolisme. Les francs-maçons, en général, mais en particulier ceux de la Grande Loge de France, sont très attachés à la pensée symbolique. Ils vivent d'ailleurs et travaillent dans leur temple, au milieu de symboles, dans un univers peuplé de symboles. Le triangle, le soleil, la lune, la pierre brute et la pierre cubique, les colonnes, l'équerre, le compas, la chaîne faite d'une corde à nœuds qui entoure les murs du temple, la règle, tout cela considéré comme outil symbolique. On pourrait se demander s'il n'y a pas là un attachement à une tradition désuète et anachronique, surtout dans ce monde moderne dominé par la pensée scientifique, et tourné vers l'efficience et le rendement. À quoi cela sert-il? Serait-on tenté de demander. Eh bien, paradoxalement, les francs-maçons pensent que les symboles sont des moyens d'exploration, des outils de connaissance, qu'ils permettent à l'homme, par la réflexion qu'ils suggèrent, d'appréhender certaines formes de vérité étrangères par définition à la méthode scientifique qui opère, elle, par démonstration rationnelle, expérimentation scientifique. Or, pour beaucoup de nos contemporains, l'idée de connaissance se réduit à l'idée de la science positive et technicienne qui se veut essentiellement connaissance de l'objet de ses lois. Elle réduit l'objet lui-même, le réel tout entier, ou si l'on préfère, elle réduit la réalité totale à son apparence et aux traductions, le plus souvent mathématiques, que la science donne de cette apparence. En particulier, lorsque les sciences dites humaines aborderont l'étude de l'homme, elles réduiront celui-ci à l'état d'objet, de chose, c'est-à-dire qu'elles négligeront, par principe et par définition, ce qui dans l'homme échappe à l'ordre de l'objet et à l'ordre de la chose, sa conscience et sa liberté. Autrement dit, ces sciences de l'homme n'expliqueront l'homme qu'en le mutilant ou en niant ce qu'il y a en lui de spécifique comme être humain et d'essentiel. Or, ce qui est acceptable, d'ailleurs, sur le seul plan de la méthode, ne l'est plus sur le plan de l'ontologie, sur le plan de la considération de l'homme lui-même dans la vérité de son être tout entier. Car on ne peut nier méconnaître en l'homme ce qui le constitue, c'est-à-dire sa liberté, sa conscience, la dimension proprement dite transcendante de cette conscience, et sa dimension métaphysique, comme l'écrit si justement Ferdinand Alquier. Et n'est-ce pas un autre philosophe, Gaston Bachelard, qui écrivait qu'on devait définir l'homme par l'ensemble des tendances qui le poussent à dépasser l'humaine condition. Un homme, écrivait-il, est un homme dans la proportion où il est un surhomme. Nous pensons que le symbolisme rend compte d'une manière plus exacte de cette véritable nature de l'homme, et que le symbole, par sa nature, permet de mieux appréhender cette dimension métaphysique de l'homme. Car le symbole est un signe concret qui évoque quelque chose d'absent ou d'impossible à percevoir. Il est, a-t-on dit, l'image visible de l'invisible. Par là, il traduit la réalité une et totale, composée justement de tout le visible, mais aussi de tout l'invisible. Tout symbole fait signe. Tout symbole renvoie une signification qui n'est jamais perçue immédiatement, mais seulement suggérée et découverte par la réflexion de chaque maçon. Tout symbole, en effet, peut être pensé, interprété par celui qui l'observe et l'étudie. C'est-à-dire que le symbole renvoie à une conscience, à une liberté d'interprétation et de compréhension. Dans l'expérience de la pensée symbolique, nous faisons tous l'expérience de notre liberté. C'est dire que, par définition, toute pensée maçonnique est adogmatique. Mais tout symbole renvoie aussi à autre chose, à une signification, à une pluralité de significations. Disons plutôt qu'il a de la signification. Cette signification est elle-même indéterminée. Il est donc a priori difficile de la nommer et de la définir. Certains la nommeront le cosmos, d'autres l'archétype, d'autres le principe ou le fondement. L'un ou le tout. En ce sens, on peut dire que l'expérience de la pensée symbolique nous restitue, avec la dimension métaphysique ou spirituelle de l'homme, le sens d'une certaine vérité des choses et des êtres. Car un symbole révèle toujours, quel que soit le contexte, l'unité fondamentale de plusieurs zones du réel, comme l'écrivait Mircea Eliade. Peut-être ne peut-elle nous restituer cette vérité perdue dans sa totalité et dans son unité. Mais elle permet tout au moins de prendre conscience de notre séparation et par là même d'engager cette recherche de cette vérité une et totale. Et nous retrouvons, là encore, le sens étymologique du mot symbole, Sunbolon, qui s'oppose au diabolon, comme ce qui veut rassembler et réunir s'oppose à ce qui veut diviser et déchirer. La pensée symbolique, dans son projet, veut permettre aux francs-maçons de retrouver une certaine forme d'unité avec le cosmos ou la nature, mais aussi avec les autres, et encore avec soi-même, avec ce qui est au commencement de l'univers et des hommes, c'est-à-dire le grand architecte de l'univers. Sa fonction est de jeter des ponts. Et l'on pourrait dire avec Alain, voir le propos joli que Goethe était franc-maçon, que ce symbolisme n'est pas de médiocre portée par ce mouvement de méditation auquel il nous invite. Et, paraphrasant André Breton, parlant de la poésie, nous dirions que le symbolisme est ce grand moyen qui nous pourvoit du fil en tant que connaissance de la réalité sensible, invisiblement visible dans son éternel mystère.